France Info.
Entre les lignes avec Clément Viktorovitch, comme tous les dimanches. Bonjour Clément.
Bonjour.
Ce qui se fume intéresse manifestement nos gouvernements de près, après l'Allemagne qui a légalisé en partie le cannabis récréatif il y a quelques semaines. Voici que le Royaume-Uni s'intéresse au tabac, le Parlement britannique qui a validé un projet de loi. Pour une première fois, le texte n'est pas tout à fait encore définitivement adopté, mais un projet de loi avec une mesure assez radicale. Toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009 se verront refuser la vente de cigarettes. Vous vous demandez, Clément Viktorovitch, si cette mesure ne va pas finalement dans le sens de l'histoire.
Oui, alors une décision radicale, c'est le moins que l'on puisse dire, hein. En l'espace d'un renouvellement des générations, il ne devrait plus y avoir de fumeurs au Royaume-Uni, une première mondiale, du moins si l'interdiction est bien appliquée. La Nouvelle-Zélande, souvenez-vous, avait voté une loi similaire en 2022, avant que cette loi soit abrogée par le gouvernement conservateur en novembre dernier.
Est-ce que cette décision fait consensus au Royaume-Uni ?
Non, là aussi, elle est très contestée par une partie des conservateurs. L'ancien Premier ministre Boris Johnson, par exemple, en a appelé au souvenir de Winston Churchill, grand amateur de cigares. Alors, le tabagisme fait-il partie intégrante de l'identité britannique ? Il me semble que l'on pourrait à tout le moins en discuter. Liz Truss, ancienne première ministre, elle aussi a attaqué sur un autre angle. Elle a critiqué une décision infantilisante et fustigé un état nounou qui prétendrait pouvoir s'immiscer dans la vie privée des citoyens.
Alors ça, c'est la défense classique, la liberté individuelle contre l'intervention de l'État.
Oui, c'est exactement ça, hein. Bon, objectivement, ça n'est pas faux. Cette décision revient effectivement à limiter une liberté, mais il faut rappeler que tous les États du monde restreignent les libertés individuelles pour protéger les individus contre eux-mêmes. Que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, vous n'avez pas le droit de consommer des drogues dures, ni de vendre vos organes, quand bien même vous en auriez une folle envie. Les libertés ne sont jamais absolues, elles ne sont qu'un curseur qui peut toujours faire l'objet d'un débat public.
Alors, est-ce que ça ne va pas relancer le marché noir ? C'est ce qui s'était passé au moment de la prohibition pour l'alcool aux États-Unis.
Oui, alors, le marché noir, pour le coup, c'est le principal argument contre cette mesure, un argument d'autant plus fort qu'au moment où de nombreux États tentent de lutter contre les réseaux de vente de cannabis. Venir créer un nouveau marché souterrain, celui des cigarettes, cela semble plutôt aller dans la mauvaise direction. En revanche, l'analogie avec la prohibition, elle, fonctionne assez mal, hein, pour une simple raison. La décision prise cette semaine est soutenue par une majorité des Britanniques. 59% y sont favorables d'après un sondage pour le Daily Telegraph. Par ailleurs, on sait qu'une personne sur deux en moyenne souhaite arrêter de fumer et regrette d'avoir commencé d'après une étude publiée en 2020 dans la revue Santé Publique. En ce sens, il n'est pas absurde d'envisager des mesures radicales contre le tabagisme.
Osons la question, Clément Viktorovitch, une telle mesure est-elle imaginable en France ?
Eh bien, il me semble qu'on pourrait au moins y réfléchir. Déjà, historiquement, la Grande-Bretagne a beaucoup mieux réussi que nous à lutter contre les ravages du tabac. Le pays, la Grande-Bretagne, ne compte plus aujourd'hui que 13% de fumeurs réguliers contre 32% en France. D'ailleurs, si le tabagisme a effectivement reculé en France ces 10 dernières années, c'est en partie parce que nous nous sommes inspirés des politiques publiques britanniques. Il pourrait donc être intéressant de continuer à regarder de près ce qui se passe outre-Manche, d'autant que la lutte contre le tabagisme engage aujourd'hui une véritable question de justice sociale.
Pourquoi justice sociale ?
Eh bien, c'est simple. Dans les années 60, la consommation de tabac était en fait assez uniforme au sein de la population. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. La prévalence du tabagisme est beaucoup plus forte chez les individus les moins favorisés. On compte par exemple 42% de fumeurs parmi les chômeurs. C'est 10 points de plus qu'en population générale. Or, depuis des années, l'une des mesures les plus utilisées pour faire reculer le tabac, c'est l'augmentation du prix des paquets de cigarettes. Alors, c'est efficace, hein. Toutes les études montrent que cela fait effectivement reculer la consommation et contribue donc à sauver des vies. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui, malgré toute leur volonté, ne parviennent pas à arrêter ? Eh bien, pour eux, l'augmentation du prix du paquet de cigarettes n'est rien d'autre qu'une hausse d'impôts, une hausse qui pèse avant tout sur les plus pauvres. C'est la définition d'un impôt injuste.
Bon, je ne sais pas si ces premiers concernés seraient ou pas pour l'interdiction, mais à cet égard, c'est sûr que ça réglerait le problème.
Oui, en tout cas, une interdiction du tabac qui pèserait sur toute une génération, permettrait de réduire drastiquement le nombre de personnes qui commenceraient à fumer, ce qui reste encore le meilleur moyen de lutter contre le tabagisme sans avoir à taxer ou stigmatiser les fumeurs. Et pour ceux qui s'inquiètent, peut-être à juste titre d'ailleurs, des restrictions de liberté, je me permets de poser la question suivante. De quelle liberté parlons-nous ici ? La liberté de chacune et chacun d'entre nous de s'empoisonner ou la liberté pour les cigarettiers de faire fortune en nous empoisonnant ?
Entre les lignes, Clément Viktorovitch, tous les dimanches sur France Info, à retrouver sur franceinfo.fr.